c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus.
Oh, il n'y a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là.
Les jours.
Oh, purée, ce gaz qui marche, moi. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va. Allez, c'est parti.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce Vivement ce soir qu'on se couche du lundi 27 février. Bonjour à Chloé, à la technique et à Jean, notre serre stagiaire en formation technicien son à Montpellier qui sera dans les studios de la radio pour 6 semaines. Bienvenue à lui. Aujourd'hui, nous allons parler nucléaire. Dans notre chemise à rayures, nous aurons une interview de Giscard d'Estaing réalisée en 86, quelques jours seulement après la catastrophe de Tchernobyl. Ensuite, nous ferons le tour de la question sur l'effroyable manque de sûreté du nucléaire français avec Yves Marignac. Il est le directeur de l'Agence française d'information et d'études sur l'énergie Wise Paris et également l'un des deux auteurs d'un rapport rendu public lundi dernier par Greenpeace. Pour finir cette chemise à rayures, il y aura un militant de Greenpeace qui nous expliquera pourquoi le nucléaire n'a décidément rien d'écologique. Puis nous savourerons une tripounade azimutée concoctée dans le grand chaudron d'Audrey Barat. Mais avant toute chose, traversons la vie avec la tournée générale.
Avec mon sac et ma guitare, j'ai des amis dans toutes les villes et leurs satanés comptoirs. Je les fusille avec tous les oiseaux du C'est pas trop tard. J'ai tant de lits que je ne sais où me vautrer chaque soir. Sortir de son trou, aller faire un tour ailleurs, sans jamais s'arrêter de mordre la poussière. Sourire après tout, écouter battre son cœur. La beauté ne connaît pas de frontières. Retrouver le simple goût de nos anciennes valeurs. Décrocher la routine et s'en aller prendre l'air. Puis retomber à genoux devant la beauté des fleurs et dépoussiérer ses chimères. Traverse la vie avec mon sac et ma guitare. J'ai des amis dans toutes les villes et leurs satanés comptoirs. Je les fusille avec tous les oiseaux du C'est pas trop tard. J'ai tant de lits que je ne sais où me vautrer chaque soir. Des noirs en quarantaine, tirer 400 coups, se libérer de la peur, faire sauter une à une toutes ces chaînes, retrouver le simple goût de nos anciennes valeurs, décrocher la routine et s'en aller prendre l'air, puis retomber à genoux devant la beauté des fleurs et dépoussiérer ces chimères. Je traverse la vie avec mon sac et ma guitare. J'ai des amis dans toutes les villes et leurs satanés comptoirs. We'll be right back.
Je traverse la vie. Un morceau de tournée générale, un CD de la semaine que vous pouvez retrouver sur le site internet de Radio Saint-Afrique. Place à la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Saint-Afrique.
Tout droit sorti des archives poussiéreuses de la télévision française, M. Giscard d'Estaing s'exprimait quelques jours seulement après la catastrophe de Tchernobyl. Nous sommes en 1986.
Je crois que d'abord, il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population. Pas de danger pour la population. Pas de danger pour la population.
Avec nous sur ce plateau en direct, Valéry Giscard d'Estaing, avec qui nous allons parler notamment du prochain sommet de Tokyo. Mais tout de suite, Monsieur le Président, peut-être un rapide commentaire sur l'événement du jour, à savoir cet accident survenu dans la centrale nucléaire en Union soviétique.
D'après ce qu'on sait, c'est un accident civil, ça n'a en tout cas aucune implication de caractère militaire. C'est un accident dans une centrale dont nous savons qu'elles sont construites avec des règles de sécurité très inférieures aux nôtres. D'abord parce que la technologie est une technologie plus rustique. Vous avez vu qu'il y a un seul circuit d'eau au lieu d'avoir deux circuits isolés de refroidissement. Et d'autre part parce qu'il n'y a pas d'enveloppe protectrice. Et que donc lorsqu'il y a une fuite ou une sortie, elle n'est pas interceptée par un système de protection. Je crois que d'abord il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population. C'est un accident qui est arrivé il y a déjà quelques jours. On pense que c'est samedi après-midi, en réalité. Les soviétiques ne l'ont annoncé qu'avec un certain retard. Ils l'ont annoncé parce que, sans doute, on l'a repéré, notamment au-dessus des pays scandinaves. Alors, je crois qu'il faut manifester notre solidarité. C'est un accident civil. Sans doute, la population locale en Ukraine a été éprouvée. Et s'il y a des manifestations de solidarité vis-à-vis d'un accident dans une centrale, comme dans une grande usine chimique ou métallurgique, il faut que la solidarité internationale se manifeste. Et j'adresse mes condoléances aux victimes de cet accident dans une centrale nucléaire soviétique.
26 ans plus tard, la catastrophe de Fukushima et toujours aucune sûreté nucléaire. C'est ce que déclare une contre-enquête rendue publique lundi dernier par Greenpeace. Alors cette contre-enquête, c'est un long document technique de 178 pages, c'est assez balèze, qui passe au crible les conclusions des évaluations complémentaires de sûreté réalisées par EDF, Areva, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les centrales françaises après l'accident de Fukushima. Yves Marignac est le directeur de l'Agence française d'information et d'études sur l'énergie, Wise Paris, et il est également l'un des deux auteurs de ce rapport. Avant de vous en exposer le contenu, il fait le point sur le paysage nucléaire français.
Le bilan global, c'est d'abord un très grand nombre d'installations. La France est le pays qui, proportionnellement à sa population, a le plus poussé de loin l'industrie nucléaire. C'est des installations qui, dans l'ensemble, ont été conçues et construites avant les grands accidents nucléaires qu'on connaît, qui sont Three Mile Island en 1979, Tchernobyl en 1986 et maintenant Fukushima en 2011. Donc c'est des installations qui n'intègrent pas suffisamment de prévention ou de protection vis-à-vis de ces accidents, qui vieillissent. Et donc le constat global, c'est que des accidents majeurs, pas forcément avec les mêmes causes, mais avec le même type de conséquences que Fukushima, sont possibles de façon extrêmement réaliste, malheureusement, sur un très grand nombre de nos installations nucléaires. Toutes les centrales nucléaires, on en a 19, et également les usines du combustible, et en particulier l'usine de retraitement de La Hague.
19 centrales, 58 réacteurs nucléaires, avec ça la France bat les records mondiaux au kilomètre carré. Une simple fissure, un simple accident se transformerait vite en pure catastrophe. Et comme nous allons le voir, il n'est pas improbable que cela arrive.
Sur les centrales, les deux grands scénarios d'accident qu'on peut craindre, c'est d'un côté, au niveau des réacteurs eux-mêmes, les accidents de fusion du cœur, donc ça c'est ce qu'on a observé à Fukushima, ou le cœur du combustible, sous sa propre chaleur, si on n'arrive plus à le refroidir, fond, et en fondant, il perce la cuve, il libère beaucoup de gaz, il peut provoquer une explosion qui peut détruire l'enceinte de confinement et donc relâcher beaucoup de radioactivité dans l'atmosphère. Il peut également, en fondant et en se répandant au fond du bâtiment, percer le béton du bâtiment réacteur et entrer en contact avec les nappes phréatiques et donc provoquer une contamination des eaux. Et puis on a un deuxième type d'accident majeur possible qui concerne les piscines où l'on refroidit le combustible une fois qu'on l'a utilisé. Donc on a pour chaque réacteur sur les centrales une piscine où on entrepose ce combustible. Si on perd l'eau dans la piscine, c'est-à-dire si une brèche fait que la piscine se vide, et si on n'arrive plus à refroidir, les gaines du combustible sous l'effet de la chaleur du combustible lui-même finissent par s'enflammer et ce feu libère énormément de radioactivité avec le problème qu'on n'a pas sur les piscines d'enceinte de confinement si on n'a rien pour protéger l'environnement quasiment dès lors que ce feu se produit et libère de la radioactivité. Donc dans les deux cas, c'est des scénarios d'accident qui peuvent produire des conséquences en termes de contamination radioactive du même type que celle qu'on a connue à Tchernobyl et à Fukushima, c'est-à-dire pouvant atteindre des dizaines de kilomètres au-delà de la centrale, avec toutes les conséquences à la fois sanitaires et économiques et humaines, hein, avec les déplacements de population que ça supposerait. Conséquences évidemment dramatiques et inacceptables.
Beaucoup de choses rentrent en compte en termes de défaillance et de manque de sécurité. Le principal, c'est que quand nous avons conçu les réacteurs il y a quelques dizaines d'années, nous n'avons pas imaginé tous les scénarios graves qui pourraient se passer. Cependant, des catastrophes comme Fukushima ont montré que ce qui pouvait se produire, ne devait jamais se produire, s'est produit. Au-delà des faiblesses de conception initiale, s'ajoutent donc des problèmes liés à la qualité de détail de la sûreté nucléaire, mais aussi ceux du vieillissement de nos centrales en termes de matériel qui se dégrade énormément notamment. Voilà, ça fait beaucoup de probabilités au mètre carré.
Un accident majeur est possible sur chacun des réacteurs, des 58 réacteurs français, sur chacune des piscines d'entreposage du combustible qui accompagnent les réacteurs, et également sur les grandes usines, notamment l'usine de La Hague en Normandie, qui est probablement le site nucléaire au monde qui concentre le plus de potentiel de danger en termes de quantité de matière radioactive réunies sur un seul site. La situation française a cette spécificité qu'on est très dépendant du nucléaire pour notre électricité et que même si des scénarios alternatifs sont possibles, les réacteurs sont là pour encore un moment. L'héritage des réacteurs, les entreposages et stockages de combustibles et de déchets sont là pour encore plus longtemps et donc le renforcement de la sûreté est une préoccupation dans tous les cas. Après, effectivement, le constat que l'on fait après Fukushima sur le niveau de risque des installations nucléaires renforce la pertinence de scénarios alternatifs. Et pour rester sur le cas de la France, j'ai personnellement contribué fortement à un scénario énergétique à l'horizon 2050 qui s'appelle le scénario Négawatt, qui montre très bien que l'on peut, en agissant sur la demande, sur une plus grande sobriété dans nos comportements, dans nos gaspillages d'énergie et sur une plus grande efficacité dans nos équipements, réduire la consommation d'énergie tout en maintenant un confort de vie suffisamment pour fournir l'énergie dont on a besoin avec les renouvelables, en particulier en France où on a un potentiel naturel extraordinaire de ce point de vue-là. Et donc il est tout à fait possible, à l'horizon de quelques dizaines d'années, de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, qui est notre premier problème énergétique, et de le faire en se passant en même temps du nucléaire, et donc en fermant, sans prolonger sa durée de vie, le parc nucléaire existant.
Yves Marignac, directeur de l'Agence française d'information et d'études sur l'énergie Wise Paris, est également l'un des co-auteurs de ce rapport. Donc ce rapport a été rendu public, comme vous le savez, lundi dernier par Greenpeace. Vous pouvez donc le trouver dans le détail sur le site du Greenpeace, mais sur de nombreux autres sites. Sachez qu'un résumé donc plus court a été fait et il est beaucoup plus simple, beaucoup moins technique, qui vous permettra tout de comprendre dans le détail, mais sans rentrer trop dans la technique. Sachez qu'il existe donc des scénarios alternatifs. Nous essaierons prochainement de faire une émission sur le manifeste de Négawatt. En attendant, et pour finir cette chemise à rayures spéciale nucléaire, voici une interview vidéo diffusée sur le site internet de Greenpeace.
En France, nous avons une situation tout à fait particulière vis-à-vis de l'énergie nucléaire, puisque 80% de notre électricité est produite par le nucléaire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre énergie ou électricité, ce n'est pas la même chose. Et en France, on a souvent confondu les deux. Dans le monde aujourd'hui, le nucléaire ne produit que 2,5% de la quantité d'énergie consommée. C'est donc extrêmement marginal. Le nucléaire aujourd'hui n'est pas une fin en soi telle qu'on voudrait nous le faire croire en France. Donc, le nucléaire aujourd'hui ne répond pas à notre question d'urgence absolue que nous voulons combattre, qui est le changement climatique. Nous avons des délais extrêmement faibles, nous devons agir très très vite. Or, les investissements dans le nucléaire sont colossaux, ils représentent des dizaines de milliards. Et puis surtout, il va falloir beaucoup de temps pour mettre un parc nucléaire en place. Et puis même, si on était dans un scénario très pro-nucléaire, eh bien nous arriverions au maximum à doubler le nombre de réacteurs présents sur Terre en 2050. Et en doublant, on arriverait à une efficacité sur les gaz à effet de serre que maximum 6%. Il est clair que le nucléaire ne peut pas être une réponse à cette question de l'effet de serre. Et puis l'autre problème évidemment du nucléaire, ce sont les problèmes, on va dire annexes, connexes, mais immédiats, qui vont être le lien avec le militaire. La situation en Iran aujourd'hui nous le démontre. Le nucléaire n'est pas civil en tant que tel, il utilise des matériaux qui peuvent être utilisés à des fins militaires, et donc on a un vrai problème de prolifération avec le nucléaire. Autre problème, c'est que loin d'être une énergie propre, telle qu'on voudrait nous le dire, puisqu'elle produirait peu de CO2, le nucléaire est en fait un producteur de milliers de tonnes de déchets nucléaires dont aujourd'hui personne dans le monde n'a de solution. C'est quand même un triste héritage pour nos enfants. Donc c'est un gouffre d'argent, ce n'est pas une solution à l'urgence climatique et en même temps on a des quantités d'autres problèmes annexes. Donc le nucléaire ne répond pas du tout ni à la crise énergétique ni à l'urgence climatique. Il faut aller très très vite. Et on le sait, puisque dans les années 70, on a eu ce passage du tout pétrole au tout nucléaire. Lorsqu'on a une volonté politique, on peut changer les choses. Le problème, c'est que ces dizaines de milliards qu'on serait tenté aujourd'hui facilement d'investir dans le nucléaire, il faut absolument les investir dans une véritable politique ambitieuse, avant tout d'efficacité énergétique et évidemment de développement du renouvelable. Le problème en France, c'est que nous avons un lobby nucléaire, une industrie nucléaire très puissante et qui monopolise évidemment la recherche, qui monopolise l'argent. Et puis nous avons, malgré tout, un développement qui est en cours du renouvelable. Par contre, nous avons un vrai problème, c'est que l'efficacité, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Il faut absolument que l'argent soit investi là. Il est clair que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
Adolphe Nucléaire existe, il est français. Ça finit par un A, ça commence par un C. Ces enfoirés-là exportent à l'étranger tonnes de déchets plus ou moins irradiés. Et quant à la Hague, on fait des vagues. Dans le mont Oural, il se passe que dalle. On y observe du monstre humain, New Genetic, du corps humain. Les rivières sont devenues des cimetières. Quant à la mer, elle digère la Cogéma, aime l'environnement, elle fait des dons une fois par an. La Cogéma aime l'environnement, elle fait des dons. La Cogéma aime l'environnement, elle fait des dons une fois par an. La Cogéma aime l'environnement, elle fait des dons. Adolphe Nucléaire existe, il est français. Ça finit par un A, ça commence par un C. Et dis-moi Kojima, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois, les enfants de là-bas?
Moi, je pense que oui. Que la vie est bien loin de tes profits.
Et que tout notre inconscient
reviendra en un coup de vent sur la gueule de nos enfants.
Adolphe Nucléaire, tu viens par les couilles, mais peut-être qu'un faux solaire ira cuire ma tambouille.
En attendant, je gamberge, moi je veux que ma terre se relève.
Et toi, t'auras ton procès quand tout sera tous irradié.
Et dis-moi, Kojima, qu'est-ce que tu feras quand pour le présent, y aura plus le temps.
La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons une fois par an.
La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons.
La Cogéma aime vos enfants. Elle fait des dons une fois par an. La Cogéma aime vos enfants. Elle fait des dons.
Ouais, vous aurez reconnu Trio avec la Cogéma. Alors sachez que le groupe Cogéma n'existe plus en tant que tel puisqu'il fait à présent partie intégrante d'Areva. Donc c'est l'un des leaders mondiaux pour la production d'uranium. Il en produit près de 7000 tonnes par an quand même, c'est-à-dire soit 20% de la production mondiale. C'est assez énorme. En France, plus de 70 000 tonnes d'uranium ont été exploitées depuis 1946. Les principaux gisements se situaient dans le Limousin, le Forez, la Vendée et l'Hérault, pas si loin. Maintenant, ils pillent ailleurs, en Afrique notamment. Bon, bah voici le temps d'une tribunale hors du commun, monarchique, je crois, par Audrey Barat.
La tribunale azimutée.
La tribunale attribuée.
La tribunale azimutée.
La tribunale azimutée.
Je vais donc passer la parole à Serge Bernstein qui va se demander si la Ve République est toujours une monarchie républicaine.
Merci Monsieur le Président, ma réponse sera positive.
Oui, Nicolas Sarkozy donc vient d'arriver sur la scène de la salle Gaveau. On l'a vu accompagné de Franck Louvrier, son chargé de la communication, de Claude Guéant, que vous voyez très légèrement en retrait, qui a été son efficace directeur de campagne, qui est là, à 2 mètres de lui, sur le podium de la salle Gaveau, tandis qu'à l'extérieur, donc rue de Miroménil, des milliers de manifestants avec des...
Le président de la République, il a des pouvoirs très importants qui sont hérités de la monarchie française, hérités des rois de France. C'est le chef des armées, c'est le chef de la diplomatie, il a le droit de faire grâce.
En proposant au peuple français sur la place de la République le 4 septembre 1958 le nouvel équilibre des pouvoirs qui définit la Ve République, et qui fait du chef de l'État la clé de voûte des institutions, le général de Gaulle annonce la fin d'une tradition profondément enracinée dans la culture politique des Français, tradition qui considère la République comme incompatible avec un pouvoir exécutif fort.
J'appelle tous les Français, par-delà leur parti, leurs croyances, leurs origines, à s'unir à moi pour que la France se remette en mouvement.
J'ai dans mon chapeau de magicien de la poudre de perlimpinpin.
les présidents de la République, qu'est-ce qui les caractérise? D'abord, il y en a eu 23 et ils ont des points communs. Les Français ont des attentes particulières envers eux, c'est la figure du père, le président de la République. C'est l'homme qui doit assurer l'unité nationale.
Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français, que je parlerai pour chacun d'entre eux. Je veux leur dire que ce soir, ce n'est pas la victoire d'une France contre une autre. Il n'y a pour moi ce soir qu'une seule victoire, celle de la démocratie, celle des valeurs qui nous unissent, celle de l'idéal qui nous rassemble.
Tournicoti, tournicoto, c'est une journée parfaite pour bavarder avec des fées et danser avec des lupins.
Les fées agitèrent leurs baguettes magiques et recouvrirent la princesse de poussière magique afin qu'elle vive heureuse jusqu'à la fin de ses jours.
Quel conte de fées adorable, Margot! Merci beaucoup de me l'avoir lu!
Des histoires à dormir debout. Les gens qui sont intelligents ne croient pas aux fées ni à leurs baguettes magiques.
Le peuple français a choisi le changement. Ce changement, je le mettrai en œuvre. Parce que c'est le mandat que j'ai reçu du peuple et parce que la France en a besoin. Mais je le ferai avec tous les Français. Je le ferai dans un esprit d'union et dans un esprit de fraternité.
Les présidents de la Ve République ont une spécificité, c'est que depuis 1958, le président est la clé de voûte de nos institutions, c'est le moteur de la vie politique, c'est vers lui que tous les regards se tournent et il tire sa légitimité de l'élection présidentielle au suffrage universel direct.
Je vous ai compris.
Concevable dans son cas personnel, compte tenu du prestige que le général de Gaulle doit à son rôle historique durant la Seconde Guerre mondiale, ce retournement dans l'équilibre des pouvoirs ne semble pas pouvoir survivre au départ du gouvernement de celui-ci. Or, contre toute attente, la monarchie républicaine, fondée en 1958, a non seulement survécu à son fondateur, mais n'a cessé en un demi-siècle de se consolider et d'étendre le champ de ses prérogatives.
La présidence, c'est aussi une fonction qui est indissociable d'un lieu hors du commun, l'Élysée.
Le peuple français s'est exprimé.
Et c'est cette élection très particulière, avec un taux de participation très élevé, qui donne sa légitimité au président de la République. En 1974, c'est le record de participation à une présidentielle, 87% de participation au deuxième tour de la présidentielle de 1974 entre Mitterrand et Giscard. Et on voit bien, à cette abstention extrêmement faible, l'intérêt et l'attachement que les Français ont pour l'élection du président de la République. C'est ça la spécificité du président sous la Ve République.
En m'adressant à vous ce soir, dans ce moment qui est, chacun le comprend, exceptionnel dans la vie d'un homme, je ressens une immense, une sincère et une profonde émotion. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Cette page de notre histoire, mes chers compatriotes, je suis sûr qu'elle sera grande, qu'elle sera belle. Et du fond du cœur, je veux vous le dire, avec la sincérité la plus totale qui est la mienne en ce moment où je vous parle, vive la République et vive la France.
Bonsoir les enfants. J'espère que vous êtes tous de bonne humeur et que vous ne grognez pas.
Tournicoti, tournicoto.
Le peuple français s'est exprimé.
Mazalda, avec leur nouvel album sorti en décembre, science-fiction. Agenda, dis-moi, Agenda, que se passe-t-il cette semaine sur Radio Saint-Aff?
Oh là là, je m'ennuie, il n'y a rien à faire par ici.
Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas écouté l'agenda de Radio Saint-Aff, toi?
Sorties, concerts, expos, et même cinéma et météo. C'est ça l'agenda de Radio Saint-Aff.
Et en plus, vous avez de la chance, c'est maintenant.
Bonjour à toutes et à tous. Demain soir, théâtre à la Fabrique à Millau avec le spectacle L'Antégone D ou Que dit le cochon quand le fermier l'égorge? Non, non, c'est pas une blague, c'est bien un spectacle qui nous interroge sur la place de l'homme dans une société en pleine décadence. Et c'est demain à 20h30 à la Fabrique à Millau. Mercredi, c'est tout un programme pour vos enfants qui vous est proposé au lieu-dit à Saint-Afrique. Ça commence à 10h30 le matin avec Stéphane qui invite vos petits à apprendre le rythme et les percussions. Un autre atelier aura lieu en même temps, Kotoué nous apprendra l'origami ou l'art des papiers pliés. Un peu plus tard dans l'après-midi à 15h, Lucille propose son fidèle goûter philo autour du lapin de parole. Toujours au lieu-dit, mais cette fois-ci un peu plus tard le soir, c'est pour les grands, venez donc donner de la voix à 20h avec le groupe de chant Contestataire. Mercredi, la compagnie de danse Dernière Minute vous propose son spectacle Asphalte, entre lumière, performance et humour. C'est à 20h45 à la Maison du Peuple à Millau. Jeudi, ce sera le premier jour du mois de mars, le printemps s'approche à grands pas. Sortez vos instruments du placard et venez à 20h30 au lieu-dit partager un pur moment musical. Vous avez une maison trop grande pour vous? Ça vous dit d'accueillir une étudiante qui vient faire un stage à l'Office du tourisme de Roquefort de mars à juin? Si oui, passez-nous un coup de fil, on vous mettra en relation avec elle. Le jeune groupe de quadragénaires du Sud Aveyron qui sévit du côté de Camarès, Saint-Aff et Belmont cherche encore et toujours un musicien claviériste pour des reprises pop-rock et folk. Si ça vous intéresse, passez-nous un coup de fil, on transmettra. La Maison de la Mémoire lance un appel à témoignages et documentation sur les moulins de Saint-Afrique. Si vous possédez des photos, des vieux plans, d'anciens catalogues, des articles de journaux concernant cette ancienne industrie, contactez la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Et enfin, ça se rapproche, les 1 an de la catastrophe de Fukushima. Et si on essayait de faire tous ensemble bouger les choses côté nucléaire avec une grande chaîne humaine, très grande même, puisqu'elle rejoindra Avignon à Lyon le 11 mars. Toutes les infos sont sur le site internet www.chainehumaine.org. Des bus sont prévus au départ de Saint-Afrique. Pour réserver une place dès maintenant, appelez le 05 65 49 36 11. Du côté des expositions, au lieu-dit à Saint-Afrique, exposition commune de Coteau et Makino et de Marie Delmas de création textile. Dépêchez-vous, c'est jusqu'à mercredi. À l'hôtel de Toria Camillo, exposition de Cyril Rouge et Jürgen Schilling dans la forêt profonde. Une nouvelle expo à l'espace Galerie de Millau, ce n'est pas vraiment un silence. Des photos, des dessins et des poèmes de Jean-Marc Barrier. Le musée de Millau accueille une rétrospective de la lutte du Larzac en affiche. À la Fabrique, vous pouvez encore vous délecter de La Glèbe et des mots, une exposition-installation autour des œuvres d'André Aragon. Et enfin, à l'espace culturel de la mairie de Millau, Sylvie Cross expose ses peintures jusqu'à vendredi. Un petit tour au cinéma ce soir à Saint-Afrique. Le Moderne vous propose à 21h The Artist et La Vérité si je mens. À Millau à 20h45, vous pourrez voir Voyage au centre de la Terre 2, La Vérité si je mens 3, Cheval de guerre et Louise de Wimmer, un film d'art et essai. Bonne journée, soirée à toutes et à tous sur Radio Saint-Afrique. We'll be right back. Il est temps de se dire au revoir. Dans cette matinale, vous avez pu entendre dans la chemise à rayures une interview de Giscard d'Estaing réalisée en 86. Yves Marignac, le directeur de l'Agence française d'information et d'études sur l'énergie Wise Paris, est co-auteur d'un rapport que vous pouvez lire sur le site internet de Greenpeace notamment, ainsi qu'un militant de Greenpeace qui nous parlait du CO2 et de l'impact écologique du nucléaire. La tripounale azimutée monarchique et grinçante était signée Audrey Barat et l'agenda culturel. Côté musique, vous avez pu distraire vos oreilles avec Strave Traverse la vie de la tournée générale, la chanson Kojima de Trio, Two Hog Egg de Mazalda et Levé Town de Loud Dawn. Retrouvez les CD de la semaine sur le site internet. On se dit donc ce soir en rediffusion et à demain à 10h10 sur Radio Sainte-Afrique.